France Inter.
C'est la bande originale, soyez les Daniel Morin.
Et ben coucou.
Et une bande originale particulière en cette période de vacances scolaires. Nous vous offrons une sélection des meilleurs moments d'émission. C'est pas gagné.
Et pourtant, on va bien commencer la semaine en recevant un couple ou presque. Ils se sont aimés au cinéma comme au théâtre. Et ce matin, ils nous proposent de faire un pas de côté. Isabelle Carré et Bernard Campan.
Je vois pas qui c'est. Pourquoi comme métier?
Je vois pas qui est qui, toi?
Non.
Bienvenue Bernard et Isabelle, oui, vous avez bien fait, et puis surtout,
première.
Vous faites du bien de rester.
Et c'est vachement dur d'applaudir et de parler en même temps.
Ah mais on a des stages, monsieur. Nous, on a raté le stage marcher et parler en même temps, parce qu'on reste assis. Ça, on ne sait pas faire. Sur scène au Théâtre de la Renaissance, pour Un pas de côté, une pièce d'Anne Jaffery. On va appeler ça une comédie romantique, Isabelle?
Oui.
Ah oui,
ah, vous avez une grosse voix.
Moi, Isabelle,
en fait,
je te réponds.
Quand tu t'adresseras à moi, ça sera bien Bernard.
Voilà.
On va faire comme ça. L'inverse est vrai.
Oui, je suis d'accord. Comédie romantique.
Totalement romantique.
Alors, ouais, je trouve que c'est très bien ça.
Avant d'attaquer, qui fait le premier pas, Lisa, quand tu veux draguer ou pas? Est-ce que tu attends qu'on vienne?
Non, je fais assez facilement le premier pas quand je connais pas la personne.
C'est original,
après que ça se complique. Ouais, voilà.
Ouais, quand c'est quelqu'un de la famille, c'est plus compliqué.
Oui, c'est un peu des limites.
Emma, est-ce que tu es du premier pas?
Ouais, carrément, de ouf. Mais en fait, le problème, c'est que souvent, ça déstabilise les gens que je drague.
Bien sûr.
Mais dans le cadre de la loi et tout, et ils sont consentants et tout, tu vois. Mais je suis sûre que des fois, c'est un peu déstabilisant. Parce que vraiment, quand un mec me plaît, je vais le voir et je dis, excuse-moi, tu me plais, quoi. Voilà.
Okay. Ah oui, ça va très vite en plus.
Je suis sûre.
Quand même, excuse-moi, tu dis. Quand même.
Mais je me permets, je sais. Mais on gagne du temps, quoi. C'est hyper précieux.
Le temps, c'est précieux.
Premier pas.
Premier pas, oui, premier pas. Après, ceux qui font le premier pas, souvent, c'est ceux qui t'intéressent pas.
Ça, pardon. Je le prends juste personnellement, en fait.
Non, parce que moi-même, faisant le premier pas,
oui. Voilà. Ok, Julien, est-ce que tu fais le premier pas? Est-ce que tu as fait le premier pas? Parce que maintenant, tu es évidemment fidèle et tu ne bouges plus.
Bah non, en fait, j'ai jamais vraiment eu à le faire. Et c'était même déstabilisant parce que j'ai eu cette chance que, sans que j'explique pourquoi, ça venait assez facilement.
Ça venait, ça.
T'es malade de faire ça.
En fait, quand je dis ça, je peux m'expliquer parce que là, je passe vraiment pour un.
Ouais. Non,
c'est mort, c'est mort.
Venez très facilement.
C'est mort. Continue, c'est mort.
Non, ça, tu veux dire la situation?
La situation, bien
évidemment.
Entendu. Je t'aime, Nagui.
Tu passeras pas le week-end.
Hey, je sens que je vais me faire engueuler, c'est sûr, par Lille, là.
Juste avant le bisou, good night. Olaf, tu fais le premier pas ou pas?
Moi, évidemment, le premier pas.
Oh, wow. Oui.
J'aimerais qu'elle fasse le premier pas.
Oui, j'adore.
Qui a mis la pièce? Qui a mis la pièce? Jean-Michel Chambert. Daniel.
Oui, moi je fais le premier pas, mais comme ça marche pas, je fais aussi le deuxième, le troisième, le quatrième.
Tu m'as piqué.
La course de fond, quoi.
Le premier sprint.
Le harcèlement.
De toute façon, bientôt il y aura un mur.
Ouais, c'est ça. Et avec des barbelés. Ouais. Ça fait une prison, monsieur, là, on veut vous mettre.
Je connais bien, Nagui.
Oui, moi je suis comme Daniel, c'est pas le premier pas, c'est le.
Le char d'assaut.
Oh là là.
Une randonnée.
C'est la lourdeur. C'est du mec qui fait non, mais pars pas. Qui continue de marcher pendant que la jeune fille s'en va. Isabelle, est-ce que tu fais le premier pas?
Non, moi c'est la méthode wait and see.
Ah ok, d'accord.
Ah oui, très lâche.
Il faut qu'on vienne.
Oui,
d'accord. Mais est-ce que par exemple, il y a le eye contact? Est-ce qu'il y a quand même au
même
moins...
Même pas le regard. Je regarde mes chaussures, je rougis, je bafouille. Et j'attends que ça se passe, voire je me cache derrière une porte.
Vous êtes désirable, dites-moi.
Oui.
Mais vous pouvez passer à côté.
J'ai pas joué dans les émotifs anonymes pour rien.
Ah, voilà.
Vous pouvez passer à côté de plein d'occasions ratées.
Absolument. D'où cette pièce où je me venge quand je joue. Je suis beaucoup plus
entrepreneuriste
dès qu'il y a 500 personnes dans la salle. C'est très étrange.
Il y a des endroits pour ça, hein, si vous voulez qu'il y ait du monde pour faire le premier pas. Non. Bernard?
Ah, ça, il connaît.
Premier pas, ouais.
L'avez-vous fait?
Oui, mais c'est souvent la femme qui fait le premier pas en arrière quand je fais le premier pas.
Oh, joli!
Non, c'est vrai.
Un beau tango.
J'ai tenté, mais non, c'est pas trop mon truc. Je suis plutôt wait and see, moi aussi.
C'est vrai? Bon. Vous avez galéré pour.
Pour en arriver là?
Oui, non. Mais pour votre histoire d'amour, celle que vous vivez en ce moment, c'était. Je parle pas au théâtre, hein, je parle dans la vie.
Oui.
Ça a été une galère pour la convaincre.
Non,
ça a été.
Oui,
c'est ça, oui. Moi aussi, j'ai eu peur.
Une révélation.
Non, ça a été aisé, évident, et voilà.
Ah, mais c'est elle qui a fait le premier pas.
Non. Non, c'était un...
Mutuel. Enfin,
si, quand même. Genre, moi, j'ai quand même... je l'ai un peu attiré vers moi, ouais.
D'accord, d'accord.
Il a dansé.
Non, il n'a pas dit ça.
C'était dans une boîte, il a dansé. C'était ça?
Non, je l'ai invité chez moi, on a débouché le champagne.
Voilà, un pas de côté... Ah, t'es serveuse. Le mec a raconté. T'es serveuse. Un pas de côté, c'est au Théâtre de la Renaissance. On en parle jusqu'à midi et demi, mais voici le fan number one, Hall de la Bernard.
Fan man d'Isabelle Carré, c'est une vedette de France Inter dans la terre au carré. Vous êtes abonné ici, je pense que vous êtes inscrite. Au bout de 10 fois, vous avez le droit à une chronique gratuite. Je suis fan de Bernard Campancar. Vous prouvez qu'on peut être cool et s'appeler Bernard. Je suis un de vos fans et avec tous les fans de Campan, on se retrouve tous les étés à faire du camping géant. Et vous êtes là pour les pièces sympas de côté. Je crois que ça parle du Madison et des gens humilié, qui essaie de danser ça aux fêtes et au mariage.
Oh
ouais, moi, c'est une danse assise, quoi. Et qui arrive jamais, cette pièce le rend hommage. Ouais, je suis fan de cette pièce sur un banc. Je sais plus si vous aviez joué ensemble avant. M'asseoir sur un banc tous les soirs avec toi, regarder le public s'il y en a, et prendre du bon temps, théâtre ou cinéma, en serrant le bonheur chaque fois. Puis s'inventer des rôles de génie ou d'idiot, s'engueuler même parfois pour de faux, et entendre frémir chez les gens les murmures. Est-ce qu'ils sont ensemble? Je suis pas sûr. Te raconter surtout ce que c'est qu'un duo, c'est un mec fabuleux, comique et touchant, et une femme, un joyau qu'on admire tellement. C'est gagnant, gagnant, c'est carré, campant. Ouais, je suis fan et je pense que votre attaché de presse n'a pas peur. Il sait que dans 2 mois vous revenez ici pour les rêveurs. Vous êtes nos invités, on vous fera pas de mal. Bienvenue à vous avec la bande originale.
Sur scène, Olaf, le 1er avril, aux Folies Bergères.
Moi, il m'a donné envie de pleurer.
Bravo. Mmh.
Ouais,
c'est beau.
Bah, moi, il me fait chialer tous les matins.
Oui, pas pour les mêmes raisons.
Bah, je me demande quand ça va s'arrêter.
Vous jouez donc le rôle de Catherine Isabelle Carré au théâtre. Vous êtes principale dans une étude de notaire. Hein, c'est
absolument.
Ça. Donc plutôt, on va dire quoi on a l'image de d'un personnage rigide.
Austère,
quand,
ouais.
Quand on est, ouais, c'est ça. Bon. On se dit dans un...
Oui. Oui, on se dit pas que c'est quelqu'un qui va faire un pas de côté. C'est peut-être pour ça qu'elle a choisi cet emploi, ce métier. Quelqu'un qui est un peu dans ses marques, quoi, qui est un peu,
coincé.
Ouais, je dirais pas rigide, mais coincé, je sais pas, mais en tout cas qui est en couple.
Qui est dans les écrits, qui est dans les papiers, qui est
dans les règles.
Ouais. L'autre.
Dans le cadre.
Bernard Campan, vous êtes l'autre personnage. Vous êtes compositeur de musique, vous êtes l'artiste, vous êtes celui qui écoute la musique fort, qui chante, qui crée, qui compose en permanence des musiques.
Mais pas vraiment artiste en fait, en même temps.
Oui, c'est ça, exactement. Oui. C'est un peu le côté... Il compose des musiques, mais...
C'est pas un artiste, c'est ça.
Mais finalement, non, pas tant que ça. Je trouve qu'il a un côté un petit peu lourd, finalement. Et la notaire, elle a des rêves d'écriture, d'ailleurs. Elle arrivera à écrire. Je pense que finalement, tu es plus artiste...
Alors, c'était la suite de ma phrase. C'est-à-dire que sur le papier, l'un est artiste, l'autre est rigide. Et finalement, le fond de vos personnages, de vos caractères, c'est exactement l'inverse.
En se rencontrant.
Voilà.
En fait, il y a une espèce de vase communicant.
Voilà.
C'est drôle, d'ailleurs, parce que quand j'y pense, il y avait ça aussi dans Se souvenir des belles choses. On a un truc de vase communicant, décidément.
Une histoire d'amour. Hein.
Ouais. Mon personnage se révèle un peu à sa rencontre.
Mais c'est elle qui va faire le premier pas. C'est elle qui va être intriguée par ce bonhomme à côté.
Ça se fait un peu...
Chaotiquement, au début, ça marche pas. Ouais, non, c'est
faut que je relise la pièce.
Non, c'est pas ça. C'est quand même la première qui va... sous prétexte de dire votre musique est trop forte, vous chantez faux.
Ah, c'est pas sous prétexte, je crois qu'elle est vraiment,
elle est vraiment énervée par lui. C'est,
ouais,
c'est souvent
le relance,
comme ça, les histoires d'amour, ça commence. Enfin, je sais pas.
Elle installe un dialogue par une engueulade.
C'est souvent un truc comme ça, non? Un espèce de rejet, peut-être une peur.
Ah oui.
Ça peut durer toute l'histoire d'amour. Hein.
Je vois que vous avez eu ma femme au téléphone. Mais rejet, peur, c'est
allô Mélanie.
C'est comme ça qu'elle me parlait. Oui.
Et donc la troisième plainte, elle se détend.
les deux sont en couple. Les deux ont une vie déjà construite.
Oui, et ce qui est beau dans cette histoire, c'est que ce ne sont pas du tout des dragueurs, en fait. On parlait de qui le premier pas. Ouais. Ça leur arrive. Et c'est ça qui est extrêmement touchant, c'est que, bah, comme beaucoup de gens qui vont maintenant prendre des plats à emporter, ils ont l'habitude de manger dans le même parc, sur un banc, puis il se trouve que ce banc, bah, ils le retrouvent, voilà, et il y a une relation qui naît entre eux, mais qui leur échappe complètement. Ils n'avaient pas
balance,
du tout.
Elle lui balance un verre d'eau.
Oui, ça commence mal, justement.
Ça commence mal,
ouais. Et ça pourrait s'en terminer là, quoi.
Sur un blouson qui pourrait être abîmé. Tous les blousons ne supportent pas l'eau.
Oui. Absolument, c'est le cas de celui-là.
Voilà.
Donc ça commence très mal,
c'est pas de l'eau.
Mais ils y reviennent parce qu'il y a quelque chose qui, quand même, il y a une électricité, quoi. Il y a quelque chose qui les attire, vraiment malgré eux. Moi, c'est ce malgré eux que je trouve très touchant dans la pièce, c'est que voilà, ils n'ont pas l'habitude de ça. Du coup, ils sont complètement dépassés. Ils sont dans le déni. Enfin, il y a plein d'étapes comme ça qui met beaucoup de saveur à cette rencontre, quoi.
C'est pour ça que c'est ridicule de promettre l'amour à vie, parce que justement c'est le cas de ces deux personnages. Ça c'est au-delà d'eux, c'est plus fort qu'eux.
Ah, mais ça, j'ai fait un passé.
Pas du tout. Pas du tout. Moi, j'ai jamais promis l'amour à vie, c'est pour ça.
Ouais, non, mais déjà le promettre pour le lendemain, c'est pas mal.
Bah, déjà pour la journée.
Et tu fais ça, et tu fais ça tous les jours, ça peut durer longtemps.
Ouais.
En effet.
Déjà pour la matinée.
Daniel, il est épuisé.
Mais c'est vrai qu'il y a une citation à la fin de la pièce de Notre besoin de consolation est impossible à rassasier, de Stieg Dagerman, qui dit ça, qui dit qu'en fait, peu importe le temps du bonheur, c'est, y a aucune corrélation entre, enfin, il faudrait pas en mettre en tout cas, entre le moment de l'amour, le moment d'une rencontre.
Entre la force de l'amour et la durée, c'est ça ?
Ouais, ou quel que soit le moment de bonheur, il dit même une caresse.
Peu importe que ça dure une seconde ou mille ans.
Sur un jour qu'on donne à un enfant, ou un bateau qu'on voit s'envoler, une belle journée, peu importe le temps qu'elle dure.
Mais alors, pardon, ce rendez-vous qu'il se donne régulièrement autour de ce banc public, dans le parc, avec des caractères qui passent autour, il y a une personne qui revient avec son landau, qui a perdu régulièrement une pièce d'un euro, évidemment, on comprend que c'est une manière, en tout cas, de ne pas être, se sentir
humilié. Il est joli, ce personnage, c'est un peu un personnage à la Capra, quoi, milliardaire pour un jour, ce genre de personnage.
Ou dans
l'ange,
dans la vie
Clarence,
est belle.
Dans la vie est belle, exactement.
Ouais. Ouais.
Qui est là un peu pour observer cette relation.
Et puis,
c'est joué merveilleusement par Hélène Babu, j'en profite.
Il y a qui joue deux rôles dans la pièce, qui joue également le rôle de votre épouse Bernard Campan, et puis il y a ce jeune couple d'amoureux qui fait peut-être rêver ces deux qui se demandent s'ils ont réussi ou raté leur histoire d'amour.
C'est ça qui est beau, ouais, c'est ce rapport d'âge aussi, parce que nous on est un peu en quête d'une seconde chance. Et un peu au moment de faire des bilans, ce qu'ils font d'ailleurs dans ton couple avec Hélène Babu, ils sont un peu dans ce truc de bilan, est-ce qu'on part à la campagne, enfin comment réinventer son couple et son histoire d'amour.
Parce que tout n'est pas rose non plus, par exemple dans votre couple à la maison, le mari est plutôt... reste d'ailleurs à la maison pour des problèmes de santé.
Stéphane, joué par Stanislas Tani, qui a effectivement une dépression. C'est un thème très actuel. On a beaucoup entendu parler de santé mentale et je reviendrai, j'en profite pour le dire, dans quelques temps, vous parler des rêveurs pour ça. Mais c'est vrai que.
Enfin,
oui,
vous revenez pas parce qu'on vous invite, hein, c'est pas vous qui vous imposez. Hein.
Oui.
Parce que là, on vous dit.
Si, j'ai gravé mon
dit, dit comme ça, on dirait une menace. Et j'en reviendrai ici, monsieur.
Ouais, ou alors, genre, elle a pris la confiance, quoi. Et donc, je reviendrai. Je vous donne la date.
Il faut que je vous donne,
et l'heure. C'est bon, ça. Notez.
Je disais que je faisais pas le premier pas, mais je m'invite quand même.
Ah ouais, ouais,
on sait que ça sera à 11h, mais on ne sait pas quel jour, mais on attend.
Ah ouais. Et si c'est un week-end, faut qu'on se démerde. Hein.
Donc, oui, il a peur de sortir de chez lui.
Il a peur de sortir de chez lui, et elle est tout en soutien vis-à-vis de lui, et on sent que ça pourrait durer, sauf qu'il y a cette rencontre, encore une fois, qui n'était pas prévue. Et en même temps, elle cite encore, là, je dis une autre phrase de Paul Éluard, qui dit « Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. »
Et vous y croyez à ça ?
peut-être mon personnage y croit beaucoup.
Pas que dans les histoires d'amour, hein, je veux dire, est-ce que vous y croyez aussi pour les rencontres professionnelles, pour les projets qui arrivent, les lectures d'un livre?
Moi, je crois quand même beaucoup à la chance. Je crois quand même beaucoup à la chance et on ne peut que y croire.
Rien n'est écrit, quoi. On n'est pas dans le mektoub, on n'est pas dans le dans la destinée.
C'est pas incompatible.
Vaste.
Ouais, c'est peut-être pas incompatible à être à l'écoute.
Bernard, vous pensez quoi?
Je propose qu'on réfléchisse 20 minutes en silence.
Oui, voilà, c'est ça. Une petite méditation.
Allez, Bernard.
On se rend compte.
Ce qui est beau, c'est que c'est une pièce qui fait réfléchir à tout ça, effectivement.
Ben oui, moi je pense que non, mais tout est écrit, c'est piège parce que ça n'a pas de sens véritablement. Mais je pense qu'il n'y a pas de hasard. Moi je pense qu'il n'y a pas de hasard. Comme mon pote Einstein. Non, je pense qu'il n'y a pas de hasard. Tout arrive parce que tout est en corrélation avec tout. Donc, c'est, voilà, il n'y a pas de hasard pour moi.
C'est au théâtre, ça s'appelle Un pas de côté, signé Anne Diaferi. C'est une création.
Oui.
Cette pièce n'ayant donc jamais été jouée avec Kelly Gauvry, Pierre-Antoine Suarez qui vous accompagne également, vous quatre sur scène, Isabelle Campan et Bernard.
Isabelle Campan.
Carré. Mais bien, j'aime bien ça, j'aime bien.
Bien fait, avec Stanislas Stanich.
Et l'année dernière, elle marchait bien.
Et la fin de la pièce va vous surprendre. La fin de la pièce va vous
surprendre.
Attends,
on n'y est pas encore.
Non, mais c'est pas que je ne dis pas, mais.
Voici Lisa Delmoitier. Pas écrit une comédie romantique comme ça, vous?
Non, ça me déprime parce que je me rends compte que la saison des bancs publics touche à sa fin.
Oui.
Qui dit hiver dit chacun chez soi, sur nos petits bancs privés. Comment on rencontre des inconnus en hiver? Sérieux, passé octobre, mon seul espoir de rencontrer un inconnu, c'est de me faire cambrioler. Bah, maintenant que vous êtes là, on peut peut-être papoter. Visiblement, on a les mêmes goûts en décoration. Il faudra rendre le tableau. Mais vos deux personnages, Isabelle et Bernard, mais ils se rencontrent quand? Au printemps? La saison où tout est prétexte à la rencontre d'autrui, les balades dans les parcs, les déjeuners sur les bancs publics, les allergies, le nombre de couples formés autour d'un... Excusez-moi, vous avez un bouchoir? Comme ça, moi j'adore rencontrer les inconnus, surtout vous Bernard. Hey. Yeah, c'est pour ça que c'est mérité, c'est pour ça que j'adore ce métier. Hein. Chaque jour, on reçoit des invités différents, enfin bon, sauf aujourd'hui. Et on s'adresse à des auditeurs dont on ne sait rien de nos auditeurs, ce sont les inconnus. Enfin, sauf un, j'ai un auditeur qui, chaque fois qu'il monte à Paris, me ramène du fromage. Vous le croyez ça? J'ai un dealer de Chabichou. Oh, wow. Je le sais, d'ailleurs, Fred, gros, c'est de la bonne. Hein. Moi, je suis accro aux premières rencontres, j'adore échanger avec des inconnus parce qu'il n'y a pas d'enjeu.
Ouais.
On le voit d'ailleurs, vos deux personnages se confient assez vite parce qu'il y a dans le banc public un côté confessionnal ou cabinet de psy, si vous avez troqué Dieu pour le MDR. C'est une thérapie où tu secoues les yeux dans tous les sens. Et je peux imaginer que ça marche. Parce que moi, quand je veux résoudre un trauma, je me fous en boule dans la machine à laver. Voilà. Je vous jure, ça secoue tellement, ça marche. C'est à la phase de pré-rinçage que j'ai compris que ma peur des araignées venait du fait qu'elles sont absolument dégueulasses. Moi, je les collectionne, les belles petites rencontres comme ça avec des inconnus. C'est pour ça que j'adore les hôtels. Il m'arrive toujours des aventures dans les hôtels.
Ah bon?
Je sais pas pourquoi. D'après la sécurité, déambuler la nuit dans les couloirs en robe de chambre et en parlant seul n'aide pas. Mais bon. J'adore les transports en commun aussi. Tu rencontres qui seul derrière le volant de ta voiture? Sérieux. C'est juste toi, l'air conditionné et ton racisme réprimé. C'est quand même fou la voiture. C'est une machine à devenir facho, quoi.
Oui, oui.
Tu peux mettre Gandhi dans une Kangoo. Au deuxième cycliste qui le coupe la route, il gueulera, mais rentre dans ton pays, connard! Oula. Alors que le métro, le train, oh là là, le train. Je rencontre toujours des gens dans le train. Pas plus tard qu'il y a deux semaines, figurez-vous, dans l'Eurostar, j'ai rencontré un garçon.
Alors
voilà.
Je vous arrête tout de suite, rien de sexuel, il était hollandais.
Ah,
il est toujours, d'ailleurs, c'est incurable. Mais c'est quand il s'est assis à côté de moi avec un grand sourire et en me serrant la main que je me suis dit... Oh. Il n'est pas français. On s'est alors mis à parler de nos étés respectifs de façon hyper honnête, en fait. Parce qu'on s'est dit, on se reverra jamais. Donc on s'est confié, on s'est rendu compte qu'ils avaient été, pour tous les deux, assez mouvementés, assez éprouvants par moments. On s'est parlé de nos choix de vie, on s'est parlé de nos métiers, on s'est parlé de nos relations, et on s'est dit qu'on ne savait pas où on allait. Puis le contrôleur a dit Bruxelles. Bon, il n'avait pas tort, mais il était un peu premier degré. Alors voilà, on a échangé nos numéros. Mais en réalité, il y a peu de chances que je le revoie, mais ce n'est pas ça qui compte. Hein, ce qui compte, c'est que le temps du trajet, c'est moi qui avais la place à la fenêtre. Bon. Non. L'important, c'est la belle rencontre, l'échange, à quel point, comme dans la pièce, ben, le regard d'un inconnu peut questionner profondément nos vies. Donc vive les inconnus, vive nos auditeurs, vive Fred, mon dealer de lactose, et moi, hollandais, en crise existentielle. Puis cet hiver, pitié, ne me laissez pas seul, venez me cambrioler.
Yeah! Oh non! Je ne souhaite pas. Lisa Delmoitier, justement, est-ce qu'on ne dit pas plus de choses à quelqu'un que l'on ne connaît pas en se disant on va pas le revoir et on n'a pas le jugement?
On voit bien, hein, dans les taxis.
Ouais. Oui, c'est vrai.
Ou un très bon ami, ou un très bon ami, ou un inconnu.
Où il n'y aura pas de jugement. C'est ça, en fait. C'est l'absence de jugement. Et est-ce que cette histoire, cette comédie romantique, Un pas de côté, pourrait être aussi la naissance d'une amitié et pas forcément d'une histoire d'amour?
Mais ils essayent, en tout cas. Ils sont sur le fil. Est-ce qu'on va vers une amitié? Est-ce que, voilà, ayant chacun d'ailleurs, là, bon, on en a parlé, mais leur femme et leur mari, moi j'aime ma femme, elle aime son mari. Donc c'est vraiment très difficile d'aller vers une histoire d'amour. Alors est-ce que ça peut être une histoire d'amitié? C'est un peu ça aussi.
Oui, c'est ça. On est sur le fil avec aussi une progression dans le tutoiement, progression dans la bise, progression dans la nourriture. On voit à quel point cette rencontre, ce hasard devient un sandwich.
La nourriture, est-ce que c'est pas l'expression d'un langage amoureux aussi, d'offrir quelque chose à l'autre? Il y a le contact physique aussi, ils se touchent.
Ils se passent leurs cigarettes. Mais c'est vrai que
ça se fait, ça. C'est très intime, non?
Oui, justement. Ouais.
C'est la bouche, la salive et.
C'est charnel.
Je sais pas.
Bah oui.
Je fume pas, donc je sais pas.
Pas dès le départ, pas dès le départ, justement. D'accord. À un moment,
Mes questions, c'est un signe de drague quand un fumeur ou une. On dit une fumeuse?
Je sais pas. Ouais.
Il y a une fumeuse.
J'ai envie de fumer déjà.
Fumeuse?
Oui, un fumeur.
Non, un fumeur. On dit un fumeur. Il n'y a que des hommes.
Ça ne fume pas.
Bon, alors, une fumeuse. Oui, comme ça.
Qu'est-ce que t'as aujourd'hui?
Non, mais je sais pas. Le mot n'est pas joli.
C'est une fumeuse.
Ok, d'accord. Donc, quand une personne fume et qu'elle passe sa cigarette à l'autre qui la tête aussi, c'est super bizarre, non?
C'est une proximité.
Faut se connaître un peu quand même. Comme partager son verre.
T'es pas obligé de bouffer ton égo.
Oh, d'hygiène.
Oh, l'hygiène, depuis quand tu t'en préoccupes?
Feriez ça, vous, Isabelle?
J'aime beaucoup cette conversation.
Mais non, mais j'ai pas pensé, c'est vrai. Non, mais je pense à ça, c'est vrai que.
Mais justement, ça montre.
Ça m'amènerait à parler.
J'ai pas le code. Bah, vous le faites dans la pièce, mais j'avais pas le code du pas franchi avec on se passe à cigarette.
Mais le contact entre eux est très rare, très progressif. Bon, alors, je
le contact physique, vous voulez dire?
Oui, physique. Ouais. Mais la cigarette reste un contact physique, puisque la salive de l'un va.
C'est hyper intime.
Et oui, c'est ça. Donc, j'ai pas pensé à ça. Ouais.
Voilà, mais ça arrive à un moment où. Non, tout ça, c'est très
ténu. Enfin, il y a d'autres climax, je vous rassure.
Comme. Alors, lesquels Non, mais lesquels, justement?
La mayonnaise.
Rien que ça, ça donne vraiment envie d'aller voir la pièce.
Il y a la mayonnaise. Ça, c'est le climax, c'est la mayonnaise. C'est la scène de la mayonnaise.
Oui, il y a un moment où
il va falloir expliquer vite.
C'est ça.
Ou pas, justement.
En même temps, attention, faisons la montée.
Climax.
Il y a un moment, ils s'échangent de la mayonnaise. Voilà.
On peut parler de la mise en scène parce qu'on voyage. On n'est pas que dans le parc. C'est pas uniquement le banc qui est la scène.
Il y a les appartements des uns et des autres. Donc on les voit aussi revenir un peu avec les images, enfin les pensées amoureuses qui continuent à les obséder même quand ils rentrent chez eux. Donc ça, c'est des moments assez touchants aussi. Et on a essayé, oui, dans la mise en scène, enfin Al Jaferi a essayé de faire que les choses se tuilent de plus en plus, enfin qu'on ait quasiment pas de même pas du tout de noir entre les scènes, qu'on soit complètement ça circule et on passe d'une scène à l'autre. Et voilà, c'est assez.
Est-ce que c'est aussi l'explication d'un coup de foudre, la mise en scène dans une comédie romantique d'un coup de foudre? D'abord, est-ce que vous croyez au coup de foudre déjà hors des fictions, dans la vie? C'était le cas pour vous, Bernard, vous l'avez dit tout à l'heure. Isabelle, j'ai l'impression.
Je sais pas, moi j'ai l'impression qu'il me faut du temps. Faut du temps et. Apprendre à connaître l'autre, avoir une complicité qui me rassure, en fait.
Construction qu'un choc ou une évidence ponctuelle comme ça.
Oui, je me méfierais de mes élans. Je me suis beaucoup trompée.
Là, eux vivent un coup de foudre. Donc,
c'est un coup de foudre en retard, décalé.
Oui, un peu décalé à rebours, mais c'est vraiment parce qu'il y a une complicité qui leur échappe, encore une fois. Et puis ce temps où ils apprennent à se connaître, où ils se découvrent. Et
ils aiment peut-être aussi ce côté un peu piquant de la nouveauté, de l'inconnu.
Et de parler énormément, ils arrivent
à se connaître en parlant, en échangeant sur, pendant cette heure de déjeuner. J'imagine que beaucoup d'auditeurs ont vécu ça, quoi. Tu te retrouves tous les jours à déjeuner et puis petit à petit, il y a quelque chose en plus qui naît. Et
sans pour autant échanger les numéros de téléphone, ça veut dire que vraiment la rencontre, elle est conditionnée à ce lieu.
Oui, je cherche pas du tout à...
Voilà. Ça, c'est joli. C'est-à-dire qu'on tu es là, on se rencontre, mais sinon, on ne s'appelle pas.
Ah non, mais la vraie question de ce fameux pas de côté, c'est de se dire, est-ce qu'on ne peut pas simplement sourire, s'entendre avec quelqu'un, se voir, se revoir, sans forcément justement aller plus loin, le plus loin étant forcément sexuel, charnel. Il y a une phrase qui est proposée par l'assistant son qui dit ça va, il y a un hôtel à côté, vas-y quoi, c'est bon. C'est-à-dire que, et là, ce qui viendrait peut-être gâcher tout.
Exactement. Mais ça pose la question, ça me fait penser à la nouvelle rêvée de Schnitzler, qui avait été reprise à As White Shot. À quel moment, en fait, on trompe l'autre? Est-ce que c'est dans les rêves? Est-ce que c'est en y pensant tout le temps? Est-ce que là, déjà, il n'y a pas...
Mais là, c'est trop tard, là. Là, c'est trop tard.
Bah, à ce moment-là, au premier sourire, vous trompez.
Non.
Où est la limite? À la première... C'est intéressant.
Bah, si c'est la pensée. Non, mais si c'est la pensée, si c'est...
Non, mais sourire à quelqu'un comme ça, quand tu ne le connais pas dans la rue, tu ne trompes pas. Mais s'attendre à ce rendez-vous en espérant que l'autre vienne manger sur le même banc que toi...
En y pensant chaque instant, chaque jour,
il y a un souci.
Il le dit à un moment, c'est très beau, il fait une déclaration d'amour en disant ça, qu'il y pense tout le temps, que finalement, même quand il essaie de ne pas penser à elle, c'est encore penser à elle.
Et ouais.
Cette obsession, voilà, est-ce que ce n'est pas aussi là qu'il est un grand pas de côté?
On ne va pas révéler la fin, mais est-ce qu'il y a pas une morale, parce que ce n'est pas une pièce pour donner des leçons.
Non, pas du tout.
Mais est-ce qu'il y a un enseignement à tirer, à votre avis, à la fin?
C'est qu'on ne passe pas sa cigarette aux gens.
Déjà. Qu'on ne connaît pas. Déjà.
C'est un peu l'éloge de pas de côté. C'est quoi? C'est être déstabilisé, accepter d'être déstabilisé. On peut se dire qu'on ne se perdra pas si on va toujours tout droit, bon, certes, mais accepter cette déstabilisation, de ne pas savoir, de partir un peu dans cet ailleurs, c'est fragilisant, mais on en ressort, comme je le disais tout à l'heure, mon personnage va finir par se révéler, par écrire, par s'inventer une autre vie.
Surtout de ne pas raconter la fin, on peut simplement dire que l'importance dans l'amour, c'est quand les deux se racontent la même histoire. C'est ça aussi qui, que personnellement, j'ai retenu de la pièce. Parce que chacun va avoir, entre guillemets, deux histoires en parallèle. Celle qu'il construit avec son couple stable, l'histoire qu'il est en train de rêver. Et puis après, il y a la réalité qui va venir déterminer finalement de quel côté la balance va pencher.
Exactement.
Pas d'accord, Bernard. Vous
non, je suis pas sûr, non.
Mais
je pense que c'est
est-ce qu'il se raconte,
c'est une histoire d'amour. Il y a eu histoire d'amour.
Oui, mais est-ce qu'ils se racontent la même histoire tous les deux?
Non, pas tout à fait. Ils sont pas toujours en phase. Voilà, ils cherchent.
C'est pas le même point de vue.
Mais ce qui est beau, c'est que quoi qu'il en soit, il y aura eu histoire d'amour. C'est ça qui est très beau. Alors, est-ce que pas totalement platonique, mais quand même, il y aura eu une...
On en parle jusqu'à midi et demi, c'est au Théâtre de la Renaissance. Isabelle Carré, Bernard Campan au théâtre pour Un pas de côté. Voici Camille là-bas.
Alors que la Fashion Week s'est récemment achevée à Paris, nous avons pu constater que le métier de mannequin s'était largement démocratisé ces dernières années. Une tendance qui inquiète Svetlana Piktavodka, ex-mannequin et auteur des livres Obésité morbide, récits croisés de femmes faisant un 38. Ou encore le mouvement Body Positive, enquête au cœur d'un nouveau djihadisme. Svetlana, bonjour.
Bonsoir.
Alors, comme je le disais, cette tendance...
Vous avez changé quelque chose dans votre look depuis la dernière fois?
Non.
Dommage.
Très bien. Donc, afin de lutter contre une trop grande démocratisation de la profession, vous avez décidé d'ouvrir la première école de mannequins professionnels au monde. Comment vous est venue cette idée?
Oui.
Vous pouvez développer?
Aujourd'hui, mannequin, il veut rien dire. Tout le monde y fait mannequin sur les réseaux sociaux. C'est n'importe quoi. Maintenant, il y a plus de mannequins sur Instagram que de humoristes sur France Inter.
Ah oui, vous trouvez?
Oui. Aujourd'hui, n'importe qui, il peut faire mannequin, même s'il n'a pas les compétences. C'est comme naturopathe ou premier ministre.
Et donc, que proposez-vous dans votre école?
Je fais une formation pour les gens qui veulent vraiment devenir mannequin professionnel.
Oui. Alors, quel genre de cours, par exemple, vous proposez?
D'abord, il y a le cours de nutrition pour expliquer les aliments qu'il faut éviter.
Ah oui? Et alors, qu'est-ce qu'il faut éviter, par exemple?
Les aliments, je viens de dire.
Très bien. Quels autres cours proposez-vous?
Avec tout le voyage qu'il faut faire, il y a aussi cours de langue étrangère. On apprend juste les petites phrases basiques, comme « bonjour », « au revoir », « merci », « sans sucre
». D'accord, oui.
Ah, il y a aussi le cours de mathématiques.
Ah d'accord, oui, quoi donc ?
Oui, avec problème adapté. Pour exemple, Natalia a 17 ans et se nourrit de 3 apéricubes tous les 2 semaines. Quelle est la probabilité qu'elle soit un jour majeure ?
Je vois. Et alors, qu'en est-il des défilés ? Vous apprenez aux élèves à marcher comme des mannequins, j'imagine.
Oui, ça c'est très simple. Pour défiler, il faut regarder tout droit en pensant le rien. Vide total dans la tête. Il faut vraiment qu'il n'y ait plus rien du tout dans le regard. Voilà, comme ça Emma, c'est très bien.
Vous avez des critères de sélection pour les candidats ?
Non, pas critères.
Aucun critère de taille ou de poids ?
Non, tout le monde, il est bienvenu.
Donc, par exemple, moi, je pourrais m'inscrire ? Excusez-moi, j'ai pas entendu votre réponse, Tatiana. Est-ce que je pourrais venir ? Oui,
c'est
vous pourrez venir dans votre école ?
Ah, dans... Oui, j'ai une école, oui.
Oui, d'accord, ok. Bon, il y a des critères d'âge ?
Non.
Et la formation dure combien de temps ?
1 semaine.
Ah, c'est tout ?
Oui, car on ne peut pas faire plus pour le stage du 3e.
Eh bien, ça donne envie. Alors, à bientôt, Svetlana.
De rien.
Merci.
Camille Lavabre. C'est la bande originale. On se retrouve juste après Benjamin Biolay, Soleil profond, et c'est sur Inter. C'était Benjamin Biolay et son Soleil profond dans la bande originale de votre matinée sur Inter.
J'aime bien Biolay, je le trouve sexy. Moins que moi, mais quand même sexy.
Un pas de côté au Théâtre de la Renaissance à partir du 18 septembre.
Le premier bonheur du jour, c'est un
le soleil qui s'enroule sur ta main et caresse mon épaule.
On parle souvent des bandes originales de films, celles de théâtre sont importantes aussi. Dans une comédie romantique, il y a toujours la chanson. Est-ce que c'est le cas dans la vôtre aussi? Françoise Hardy fait partie de la BO. Il y a également ce titre de Johan Johansson, Innocence. La musique aide à jouer aussi, mettre dans un état.
Il faut trouver la couleur.
Parce qu'en plus, il est musicien de musique de film, donc on entend en fait sa musique de film.
On est dans sa tête.
On est dans sa tête à lui.
Ceci dit, il a les écouteurs très forts.
Ouais, aussi, mais il me fait partager à un moment donné ses créations, quoi.
Ouais.
Donc, on est embarqué, en fait, c'est un peu une pièce, cinématographique. On est un peu dans un film aussi. Il y a des gros plans, beaucoup, dans la mise en scène, parce qu'on est sur ce banc en premier plan. Il y a cette musique très cinématographique. Johan Johansson, il est décédé maintenant, mais c'est un grand musicien de série.
Oui, puis Anne Jaffery, elle vient du cinéma aussi.
Elle vient du cinéma, moi j'avais travaillé avec elle.
Très attachée à des choses très réalistes.
Sur Ange et Gabriel, avec Bruel.
D'accord.
Et puis un film aussi qui s'appelait... j'ai un trou. Au début, c'était Trois Sœurs.
Un joli titre.
Avec Marc Keller. La vie à l'envers, ça y est. La vie à l'envers avec Marc Keller, Barbara Schulz et Pascal Arbillot.
Très bien. La musique, on va en parler, justement, celle que vous écoutez. On va également parler des coups de foudre, des rencontres qui peuvent changer une vie, avec Cécilia Como, qui sera notre invitée dans quelques instants. Mais d'abord, commençons en 1986. Isabelle Carré, vous écoutiez... C'était quand vous étiez mise à la danse africaine?
Non, pas encore. J'allais y venir.
Johnny Clegg.
Vous avez 15 ans, Isabelle. Vous quittez la maison familiale, le domicile familial, pour aller travailler, habiter chez une tante aussi, je crois.
Oui, ça n'a pas duré très longtemps. Non, ouais. Sinon, c'est vrai que j'habitais seule un peu tôt.
Ouais.
J'étais un peu.
Ça ressemble à quoi vivre seul à 15 ans en termes de gestion?
Il y a beaucoup de cafards dans l'évier.
C'est vrai, ça veut dire qu'il faut savoir se faire à manger, se discipliner pour laver son linge, pas laisser traîner les. Enfin...
Se protéger aussi.
Oui. On ferme bien à double tour, c'est sûr, on est un peu parano.
Jeune fille mineure, seule dans un appartement.
Je faisais des photos. À des journaux dont vous devez vous souvenir, des photos de mode pour Hockey Podium, Jeannet Joly.
Évidemment.
Mais oui.
Évidemment.
Ce qui vous permet de payer.
Ce qui me permettait de payer mes habits, mes fournitures scolaires, mes tickets de métro, pas mon loyer encore. Je payais pas mon loyer, mais tout le reste, oui.
Ouais. Et très très rapidement, vous vous inscrivez au cours Florent?
Oui. Parce que je voulais être danseuse, mais j'étais nulle. Donc ça, c'était mon premier chagrin d'amour, puisqu'on parlait d'histoire d'amour ratée.
Qui vous a dit être nulle en danse?
Je m'en rendais bien compte.
Non, parce que quand on chante faux sur scène, on se rend pas compte forcément quand on chante
Quand vous avez le prof qui vous dit tout le temps d'aller au dernier rang, que vos bras ressemblent à des ailes de poulet, que vous n'avez aucune grâce, que vous feriez violent, bien d'arrêter...
On t'a aidé.
À un moment donné. Donc, je me suis inscrite dans un cours de théâtre en me consolant, me disant que je n'en ferais sans doute pas mon métier, puisque j'avais eu cet échec avec la danse, mais qu'au moins j'aurais le plaisir d'être sur scène.
Et vous rencontrez une prof géniale.
Je suis bien heureuse d'avoir fait ce pas de côté.
Ouais. Et vous rencontrez une prof super. Valérie Nègre.
Oui, Valérie Nègre qui m'a encouragée, qui m'a tout de suite dit, il y a beaucoup d'émotions, il va falloir la canaliser. Nous y sommes plus ou moins parvenus, on va dire.
Mais c'est plutôt joyeux de se dire qu'il y a beaucoup d'émotions, non? C'est un bagage,
Ce qui est joyeux, c'est que au théâtre, effectivement, là j'avais trouvé une place pour la mettre, cette émotion, mais dans la vie, elle est souvent embarrassante. Et
encore aujourd'hui
gênante, moment de gênance, dirait ma fille.
Encore aujourd'hui, elle est embarrassante, cette émotion?
Un petit peu,
trop plein,
des fois. Oui, c'est vrai qu'on est... C'est dommage, d'ailleurs. Et on parlait des émotifs anonymes tout à l'heure de ce film de Jean-Pierre Améryte. Je pense que s'il a eu autant de succès, c'est qu'il disait ça en substance, c'est que finalement, peut-être que dans cette société où on veut toujours tout contrôler et avoir des coachs pour tout, être dans cette espèce d'assurance, peut-être que notre charme, il vient au contraire de ses fragilités, de tout ce qui tremble, en fait. Ne le mettons pas trop vite de côté, ne le mettons pas sous le tapis.
86-87, Bernard Campan, vous écoutiez. Que se passait-il dans la vie, Laïla?
Elle habitait au-dessus de chez moi, Elie Ménéros.
Si, si, avec Jacques Noe.
Avec Jacques Noe, à l'époque, ouais, ouais. J'étais même allé la voir, je ne sais plus pourquoi, pour lui dire oui, je joue une pièce quelque part, si vous voulez venir vous voir. Bah, ouais.
Elle était venue?
Non.
Vous formez à cette époque-là les Inconnus.
Mmh.
Au départ, vous étiez 5. Vous appeliez les 5.
Ouais.
C'était le premier nom.
Smaïn et Seymour, ouais.
Ouais. Et puis, on connaît l'histoire, on connaît ensuite ce que deviennent les Inconnus à travers le temps. On parlait d'émotion tout à l'heure, on parlait d'être sur scène aussi pour essayer d'en faire quelque chose. Est-ce que ça a été votre cas à vous aussi, Bernard?
L'émotion, en fait, moi, je me rendais pas compte que j'avais autant d'émotions en moi, en fait.
Ouais.
Et c'est avec ce souvenir des belles choses que je l'ai découvert, quoi. C'est ce qui m'a permis de.
Ça a été tardif?
Oui, assez d'ailleurs. Je voyais bien que j'avais des émotions, que c'était difficile pour moi de les contenir, mais je voyais pas en quoi ça pouvait me servir sur les planches, parce que je me projetais pas moi au cinéma vraiment à cette époque-là.
Ouais. Ouais. Et au théâtre, c'est quoi? C'est vraiment une matière, c'est du pain béni ou pas?
Bah, d'une certaine manière, c'est un cadeau, oui, ouais. D'avoir ça à partir du moment où c'est canalisé, où c'est travaillé.
C'est ce qu'on s'est dit à la dernière répétition, quand ça a bien débordé.
Alors ça ressemble à quoi quand ça déborde?
Justement, on avait des montées d'émotions. Bah, ce qu'il faut, c'est quand même pouvoir contrôler quand l'émotion monte trop fort et qu'on n'arrive pas à parler derrière. Là, c'est un peu difficile. Oui. Mais si l'émotion est là, formidable. Et puis, il faut quand même arriver à dire le texte.
C'est pour ça que vous formez
un virage à 90 degrés à prendre dans la pièce.
Oui. Oui, parce qu'on passe de l'humour à l'émotion.
C'est pour ça que vous formez un beau duo, vous pensez? Que vous êtes tous les deux.
Bah non, maintenant on se connaît bien, très bien.
Bien.
C'est de plus en plus facile de travailler ensemble. Mmh. Parce que là, la confiance est de plus en plus là. Et pourtant, quand même, dans les scènes de rapprochement, d'amour, il y a une petite gêne, forcément. Bah, oui. Mais heureusement aussi, ça fait partie des émotions, cette gêne.
En 2002, justement, vous écoutiez Isabelle Carré. York, et on en arrive à se souvenir des belles choses.
Se souvenir des belles choses de Zabou Breitman, où vous incarnez cette jeune femme réservée et où vous faites la connaissance, je ne sais pas si c'est sur un banc, mais d'un autre patient, et c'est vous, Bernard Campan. Je sais que vous préparez, on le dit toujours, hein, vous préparez énormément les rôles, vous documentez énormément. Qu'est-ce que ça vous a permis de découvrir, ce rôle-là?
Ah ben, déjà, alors par rapport à Björk et cette chanson, je venais de voir Dancer in the Dark, juste avant le tournage. Et c'est vrai que comme on enchaînait énormément de scènes d'émotion, pour le coup, j'avais l'impression que j'allais pas pouvoir grimper ces marches. Et à chaque fois, j'écoutais cette chanson et paf, je repensais à la performance extraordinaire de Björk dans ce film. Et ça m'aidait beaucoup. Ensuite, bah oui, j'ai rencontré un grand professeur à la Timone à Marseille pour ce rôle, qui un grand spécialiste d'Alzheimer, qui m'a beaucoup appris, par exemple des choses comme le fait que oui, quand il y a une aphasie du langage, quand vous êtes face à un malade d'Alzheimer, vous pouvez toujours communiquer autrement. Il y a toujours moyen, il y a toujours une porte d'entrée, même si on a l'impression qu'on n'est plus en face de la personne qu'on a connue, qu'on peut plus l'atteindre. En réalité, il y a plein de façons. Par exemple, la musique. Exactement, la musique, lui mettre une musique qu'il a aimée, le toucher, le fait de faire un peu semblant aussi de le comprendre. Mm-hmm. Ça détend aussi.
De jouer le jeu.
Oui, de pas le contrarier s'il vous dit.
Oui, si c'est à côté, c'est pas grave. On peut comprendre par le regard.
Si vous répétez 4 fois que vous appelez Isabelle, oui, je m'appelle Isabelle, faut pas dire, mais je te l'ai déjà dit.
Ouais, c'est ça. Avoir une espèce de compréhension que ce qu'il dit, c'est pas le plus important. Il y a quelque chose au-delà des mots qui peut se...
Comme quand on joue avec un enfant et qu'il tient des propos parfois un peu délirants. Et...
Ou même, je vais vous dire, hein, comme dans la pièce entre Bernard et moi en ce moment, il y a plein de sous-textes.
Alors justement, il y a un artiste qui se bat aussi et qui fait tout pour la recherche contre la maladie d'Alzheimer et contre l'amnésie. C'est Alain Souchon que vous écoutiez à ce moment-là, Bernard Campan.
La vie ne vaut rien. Tiens, mets-moi quand je tiens, là dans mes deux mains, il bleu.
Pourquoi ce titre, Bernard ?
Parce que je l'aime beaucoup.
C'est gentil. Hein, tu vois, c'est ça va m'aider.
Non, mais quand c'est vrai, quand vous nous demandez là, les périodes, les musiques, ben, on se replonge et puis...
On demande la bande originale de votre vie, c'est le principe.
Donc, Souchon, je joue un petit peu de guitare, pas aussi bien que M. Olaf, mais j'aimais bien jouer ce morceau à l'époque.
Ouais. Et à cette époque-là, on n'aime pas du tout Adrien Brody, qui décroche le César du meilleur acteur, alors qu'on le voulait pour vous, Bernard, parce que avec Isabelle, ça aurait fait un duo gagnant. Exceptionnel, puisque Isabelle le décroche.
Ceci dit, j'ai partagé le mien en deux. Hein. J'ai dit que je le sais et que.
Et vous l'avez fait ?
On avait une partie.
Mytho.
J'ai pas trouvé ici suffisamment.
Et une garde partagée.
Que des paroles, que des mots. Ouais,
une garde partagée du truc.
C'est vrai.
Faut demander à Julien, il a une sixième étoile.
Ah oui, c'est ça. Film qui vous révèle au grand public, vous le dites. Vous dites que Zabou a vu en vous aussi. Justement, tous ces sentiments, a vu quelque chose chez vous avant tout le monde.
Oui, bien sûr. Elle m'avait vu dans un festival, comme ça, enfin, en train d'attendre. Et puis elle cherchait le rôle masculin. Elle avait déjà pensé à Isabelle pour le rôle féminin. Et puis j'ai dit, tiens, mais oui, mais lui, il peut. Je suis sûr que ça peut le faire. Donc quand elle m'a dit, je suis sûr que tu peux le faire. J'y suis allé, mais sinon, moi, j'avais des gros doutes.
Quoi. Un pas de côté, c'est au théâtre de la Renaissance à partir du 18 septembre. Cécilia Como est en ligne, puisque nous avions absolument tenu à échanger avec elle sur ses histoires d'amour. Bonjour, Cécilia.
Bonjour Nagui, bonjour Leïla.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour. Vous êtes sexologue, clinicienne, psychanalyste et thérapeute de couple. On a parlé tout à l'heure des rencontres et de cette frontière entre les rencontres amicales ou amoureuses. Comment déterminer cette frontière ?
Ah ça c'est compliqué effectivement, hein. Il existe sur l'entre-deux quand même, il existe des rencontres hein, qui ne s'installent pas vraiment dans le registre de l'amitié où la sexualité est absente, ni dans celui de l'amour hein, où l'engagement affectif est assez central. Ce sont ces rencontres où l'érotisme en fait hein, circule sans forcément se concrétiser. On a plutôt ici Eros... synonyme de frissons, d'intensité. Moi, je les appellerais facilement des rencontres désirantes. C'est des rencontres où il y a une érotisation du lien. Alors, parfois lentement, parfois plus vite. Hein. Ça dépend effectivement des gens, mais c'est vrai qu'il y a un peu cet entre-deux sur le curseur qui amène de l'amour à l'amitié.
Alors, est-ce que c'est les rencontres, quand on fait un pas de côté quand on est en couple, est-ce que ça veut dire que ça ne va pas dans le couple, ou ça veut dire que l'on voit ou on rencontre quelque chose de différent qui nous attire ?
Non, ça veut pas forcément dire ça. C'est vrai que les gens, quand ils font ce genre de rencontre, très souvent ils s'interrogent en se disant mais qu'est-ce que ça veut dire ? Alors c'est pas forcément que le couple est insatisfaisant. Hein. Rencontrer, c'est aussi rencontrer quelqu'un. Et Eros ne se faufile pas partout, mais ça interroge, et c'est une bonne chose, hein, ça peut interroger sur les creux qu'on peut avoir, qu'on peut vivre sans même en avoir conscience.
Oui, parce que généralement, quand on fait une rencontre, c'est qu'on a ces capteurs, entre guillemets, déployés, c'est qu'on est...
disponible.
Oui, ouvert, je ne sais pas quel mot employer.
Alors ça, non. Alors, je ne suis pas tellement d'accord.
Pardon. Eh ben, c'est le moment de le dire.
Non, mais parce qu'on a... J'ai souvent entendu les gens supposer que s'il y a eu une rencontre, c'est parce qu'il y avait quand même quelqu'un qui était très ouvert à la rencontre. Et moi, je ne pense pas. Je pense que rechercher activement, hein, et donc être ouvert, ça signifierait quand même qu'on a conscientisé le manque et le creux. Et ce n'est pas toujours le cas, en fait. Il arrive quand même que ce soit la rencontre elle-même qui vienne éclairer le manque et le rendre conscient. Donc, être ouvert, ça voudrait quand même dire avoir conscientisé ce creux, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde. Je le vois quand on discute avec les patients, c'est l'analyse de la rencontre qui met en lumière le creux.
Est-ce que lorsqu'on commence, comme l'a dit tout à l'heure Isabelle Carré, à imaginer des choses, à avoir des pensées, mais sans même que l'autre, celui de la rencontre, ne le sache, et encore moins évidemment la personne avec qui on est en couple, est-ce que c'est le début déjà de tromper ou pas, quand c'est l'esprit qui s'envole?
Ah, alors ça dépend des gens. Vous savez, moi j'ai des gens.
Oui, bah vous allez trancher, vous nous donnez une bonne réponse là, s'il vous plaît.
Non,
c'est crucial.
Merci Daniel. Non, ça dit simplement que.
Je vous en prie.
Non, mais chacun, vous savez, dans les couples, la frontière de ce qui est trompé est vraiment très différente pour chacun. Oui, il y a des gens qui vont considérer que penser à quelqu'un d'autre, c'est déjà faire un pas de côté. Donc c'est vraiment très individuel. Moi, je pense qu'il faut quand même se rappeler, pour que ça donne envie quand même, que le couple, c'est pas une prison. Et que on peut effectivement avoir un imaginaire, parfois érotique, ou des rêveries simplement. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'on ne respecte pas le pacte de fidélité qu'on a eu avec quelqu'un. Et puis aussi, il faut peut-être se rappeler qu'il y a plein de gens susceptibles de nous plaire et que ça, c'est une réalité et qu'il y a une vraie différence entre agir et imaginer.
Est-ce que ça peut même relancer les histoires d'amour et les histoires de couple ?
Ah ben normalement, oui. Dans le meilleur des cas, l'imaginaire serait à utiliser dans ce sens-là.
Très bien.
Bien sûr.
J'ai envie, moi non plus, c'est le titre que vous avez donné à votre ouvrage paru aux éditions Albin Michel. Merci Cécilia Comeau d'avoir trouvé le temps de nous parler. Merci, bonne journée. Un hommage rendu tous les jours, c'est celui d'Emma Beaujean.
Bravo.
Alors tous les jours, je rends un hommage ici dans cette émission et aujourd'hui, j'aimerais rendre hommage à la cigarette. Voilà, je me suis dit que c'était dommage de ne pas profiter d'être sur le service public pour passer des messages qui peuvent aider les gens. Alors déjà, évidemment, on va faire un disclaimer, fumer, c'est dangereux. Voilà, c'est dit. Après, bon, faire du jet ski aussi, Nagui. Pourtant, ça t'empêche pas d'en faire tous les étés ainsi que pendant les vacances de Noël. Mais bon, en fait, la clope, au moins, ça permet d'avoir un peu la main sur l'orga. Tu vois, tu sais de quoi tu vas mourir. C'est pas mal en vrai. Alors que Tanguy Pasturo, lui, il sait pas ce qui va lui tomber dessus. D'un moment à l'autre, il vit dans la peur. Et puis surtout, grâce à la cigarette, tu peux baiser. Voilà. C'est le virage de la chronique où on passe de mais où est-ce qu'elle veut en venir? Je suis sûre qu'elle a un truc poétique à dire derrière cette idée borderline. Pas du tout. Sorry. Vous devez me confondre avec une autre chroniqueuse. Ah, peut-être vous m'avez pris pour mon alter ego chroniqueuse littéraire. Peut-être vous m'avez pris pour Magalèvre. Salut à tous. C'est Magalèvre. Je m'appelle Magalé et j'adore les lèvres. Donc, Magalèvre. Aujourd'hui, on va se parler ensemble de la nouveau roman de Harry Potter. Moi, je trouve qu'elle écrit particulièrement bien ses lèvres. Ça se voit que c'est un bon auteur, Harry Potter. Non, voilà. Rien à voir. Moi, j'ai moyen l'écriture de Monsieur Potter en plus. Donc, bref. Non, ce que je disais, c'est que pour moi, la clope, c'est facile. Vous, c'est bien mignon dans votre pièce, vous arrivez à vous rencontrer sur un banc avant de partager une clope. Moi, la cigarette, c'est mon pilier social, je dirais même plus. Elle m'aide à ken. Ma technique de drague numéro 1, c'est de demander du feu. Voilà, c'est très simple, très efficace. Ça donne à peu près... Excuse-moi de te déranger. Ouais. Est-ce que t'aurais du feu? Baise-moi. Est-ce que... Sorry. Non, c'est pour ma cigarette, baise-moi. Trop bien. Ah, mais t'es un pote de Tom, baise-moi. Ok. Et attends, comment tu t'appelles? Détruis-moi sur le capot, Nicolas. Eh ben, trop bien. Belle soirée à toi. Bon. Après, attention, ma technique de drague, c'est de demander du feu. Ça veut pas dire que demander du feu, c'est toujours une technique de drague. Il y a des fois, j'ai juste besoin de feu. Exemple, à chaque fois que j'en ai demandé à Old Laf. Mais bon, autant c'est mauvais pour la santé et j'aimerais vraiment arrêter pour arrêter de tousser, autant j'avoue que ça me donne un peu une voix sexy, tu vois. Et c'est ça souvent qui fait que vous n'arrivez pas à nous différencier à l'antenne, Leïla et moi. Rrr, baise-moi. Si un jour vous m'entendez avec une voix suave, mais que je dis, oui, c'est vrai que dans la préface d'Hernani, Victor Hugo rejette explicitement la règle des trois unités en affirmant que bon, bah là, c'est vraiment Leïla Kadour. Moi, je suis la meuf qui va lui couper la parole pour qu'elle a dit Victor Hugo, au bois. Avec évidemment la voix perforée par une cartouche entière de Malbec ramenée du bled par ma grand-mère arménienne. Et c'est d'ailleurs la seule femme de ma vie que j'ai jamais vue fumer, ma grand-mère. Sûrement parce que quand on échappe à un génocide, bah, tout le reste, c'est du bonus, en fait. Et moi, je veux bien arrêter, mamie, mais alors il va falloir que tu m'aides à trouver une nouvelle technique pour baiser. Mais promis, hein, si j'arrête un jour, c'est pour toi. Putain, mais en fait, c'est clairement à toi que j'aurais dû rendre hommage, mamie. Bon, tant pis, la prochaine fois, je t'aime. Merci de m'avoir écouté.
Bravo, et bonjour. Tanguy, de quoi veux-tu nous parler ?
Eh bien, de ce Toulousain qui s'est présenté aux urgences avec un obus dans le rectum, un obus de la première guerre, quand même plus d'un siècle de plaisir déjà.
Isabelle Carré et Bernard Campan sont nos invités jusqu'à midi et demi sur Inter. C'est reparti, Leïla, avec nos invités du jour.
Et oui, ils s'aiment souvent et nous, on les aime toujours. C'est Isabelle Carré et Bernard Campan.
Je crois que je commence à voir qui c'est. Là.
C'est vrai ?
Ils sont dans l'agriculture.
Ouais, exactement. Non, bah, c'est... Quand on a encore une dizaine de jours devant soi, on est dans quel état ? On est dans la répétition ? On est dans le texte que l'on connaît déjà par cœur, obligatoirement ou pas, Isabelle ? Oui, vous êtes
alors,
une...
Alors pour Bernard, je vais répondre à sa place et puis tu répondras à la mienne. Pour Bernard, on a très très peur des accessoires. On se perd dans tous les accessoires.
Okay.
Mais bon sang, la cigarette électronique, elle est dans quelle poche ? Mais bon sang, où est-ce que j'ai mis le livre ?
Il y a une expression qui n'est pas utilisée très souvent, la mise. Au théâtre.
On vérifie 25 fois sa mise.
C'est-à-dire tout ce que l'on installe comme accessoire, comme objet, que la mise en place, rideau fermé, avant de pouvoir commencer.
Bah, on vérifie que tout est à sa place, parce qu'un accessoire qui manque, on est vraiment dans la merde. Quoi. Donc c'est une façon de se concentrer aussi, d'ailleurs.
Elle sous-entend quoi ? Que vous avez la tête ailleurs, que vous ne savez pas forcément où sont...
Donc on se concentre.
Non, mais là, quand Isabelle il vérifie
sa cigarette. Là, c'est les répétitions, donc il y a encore des fragilités sur le texte, il y a des enchaînements qu'on n'a pas, il y a plein de choses, puis on travaille, on continue à approfondir le jeu, mais au niveau
Isabelle, vous m'avez dit un jour que pour apprendre votre texte, vous l'écriviez et que vous appreniez aussi bien vos répliques que celles de vos camarades.
Oui, j'essaye. En tout cas, oui, la mémoire, moi, ça passe par l'écrit. Donc je réécris tout, puis c'est une façon de me faire croire qu'il est un peu à moi, que c'est un peu moi qui l'ai écrit, que je peux... c'est une façon de, on dit ça, se le mettre en bouche.
Ouais. Ok, ouais, il y a les Gueuloirs aussi, il y a Flaubert qui décriait... Ouais.
Sarah Bernard.
Pour savoir si ça...
Bélile, hurler sur la pointe du poulain, je crois.
Vous avez une technique pour apprendre, Bernard ? Il paraît aussi qu'il faut apprendre le soir pour dormir avec son texte et le réviser dans la nuit.
Non, pas forcément. J'ai essayé, ça ne change rien.
Je me suis endormi avant.
C'est bien le soir, tu vois, le matin, tu... Non, pas du tout.
Donc il n'y a pas de tips pour apprendre les textes ?
Non, c'est d'y revenir. J'ai cherché. Alors écrire, j'ai essayé aussi, mais non.
Bon.
Non, donc je lis. Et par la force des choses, on apprend un peu le texte, le sens au moins de ce que l'autre doit nous dire. Sinon, si on sait juste nos répliques...
Et comme c'est une comédie, il faut aussi être dans le rythme, dans le tempo, arriver au bon moment. La mise en scène a des déplacements, des figurants, justement, des partenaires. Là aussi, c'est comme un ballet, on parlait de danse tout à l'heure.
Oui, d'autant qu'il faut, encore une fois, que ça se tuile, pardon, c'est un vocabulaire un peu...
À nous.
À nous, pour que les choses s'enchaînent vraiment. Ouais. Mais pour répondre à votre question, dans quel état on est hyper, hyper, hyper excité, hyper heureux, parce que en plus on retrouve le théâtre de la Renaissance, qui est le théâtre de la dégustation. C'est Arthur et Morgane. Et c'est le théâtre de la dégustation, et où on a passé presque 2 ans et demi. Parce qu'il y a eu le confinement, on n'a plus pu jouer, puis on a retrouvé. C'était un moment super émouvant, le public qui quand les théâtres se sont rouverts, c'était une émotion incroyable.
Ils vont être contents, Arthur Junior et Daniel Benoît, de le citer comme ça, comme patron de théâtre qui accueille. Donc c'est vrai,
c'est des patrons de théâtre exceptionnels.
Oui, mais on dit rarement chez qui, entre guillemets, on va jouer, on donne l'adresse, on n'humanise pas. Or, ces endroits sont incarnés.
Nagui, vraiment, j'ai une petite anecdote.
Oui, mais c'est pas le moment. Un pas de côté, l'histoire d'une femme amoureuse en couple qui a son mari à la maison, mais qui a des soucis de santé. L'histoire d'un homme amoureux qui a sa femme à la maison et qui est en train de travailler dans un studio à côté du parc où il se retrouve pour grignoter un sandwich à midi. Ces deux se rencontrent. Est-ce que c'était le moment ? Est-ce que c'était l'endroit ? Est-ce que c'était la situation du couple qui fait que ou tout ça qui font que d'un coup ils vont se regarder différemment.
Est-ce que ça va si bien dans leur vie ? Parce que tu dis que le compagnon du personnage d'Isabelle Carré a une petite dépression, mais la femme du personnage de Bernard Campan, elle veut déménager, elle est à la campagne et lui il a un petit peu peur.
Elle veut fuir Paris même.
Oui, et lui il a un peu peur d'être seul. Il y a une certaine usure, on
va
dire.
Une certaine usure dont il ne se rend pas compte et qui va être révélée par la rencontre. Ouais.
Justement, vont-ils ou pas faire ce pas de côté ? C'est tout le propos de cette comédie romantique.
Sont-ils destinés à rester ensemble ou pas ?
J'en peux plus, ce suspense.
Le théâtre de la Renaissance, voici Tanguy Passion.
Ah, mes amis, peuple de gauche, mais toi aussi, Daniel. Il faut que je vous raconte un truc. Hier, je suis tombé sur un article de la Dépêche du Midi dont je vous lis le titre. Toulouse, 2 points. Impatience présente aux urgences avec un obus de 1918 coincé dans le rectum. Premier réflexe, objet historique. Je me suis dit, Stéphane Bern est parti en soirée moite avec Franck Ferrand et Bruno Solo. Il a visé gros en prenant l'obus. Les autres plus raisonnables ont dû se coincer dans le rectum un carré de mosaïque romaine ou une cotte de maille du Moyen-Âge roulée dans son étui en daim. Mais Stéphane Bern ne pouvait pas être à Toulouse. Il fait Danse avec les stars à Paris. Je sais pas pourquoi, il tenait à se faire humilier. C'est donc un inconnu qui a fait ça. Bref, quand j'ai lu ça, je me suis dit, c'est pour moi. Parce que la promesse est forte. Il y a tout ce qu'aime le public. L'histoire avec un grand H et le rectum avec un grand Q. Donc j'envoie un SMS à JB, le rédac-chef de la bande originale. Un homme au regard usé et au physique malingre. Mais qui reste étonnamment perspicace malgré sa dépression. Et là, véridique, il me répond, t'avais pas déjà fait un sujet là-dessus. Ça m'a vexé parce que je me vois comme l'intellectuel de l'humour français. Le niveau n'est pas fou, hein, c'est pour ça. Mais selon JB, je passerai ma vie à parler d'obus dans des rectums. Hein, aussi fébrile qu'un journaliste du Média Frontières qui tomberait dans un quartier populaire dont on aurait fait sortir tous les noirs pour lui faire un canular, je me suis rué sur mon ordi et j'ai fouillé dans mes chroniques en tapant le mot-clé rectum. Bon, si j'avais été Jeffrey Epstein en 2002 et que j'avais fait ça, l'ordi m'aurait sorti 3000 photos du rectum du prince Andrew à cheval sur Trump qui tente des Kinder Pingui à des gosses en leur disant petit, il est où Jack Lang? Mais moi, ma vie, regardez, ma vie est plus classique à moi, parce que j'ai horreur des enfants. Voilà, c'est moi qui ai soufflé à Jean Castex l'idée de leur interdiction dans le train. Au départ, je demandais même à ce qu'on les jette sur la voie, sur la ligne Paris-Limoges, puisqu'elle est en jachère, le train de 11h26 arrive à 17h02, ils auraient eu le temps de fuir, quoi. Et là, je n'ai pas trouvé de chronique de moi concernant un obus coincé dans un rectum, ce qui est pire. Parce que sans que j'ai eu à dire ça un jour, JB m'attribue ce genre de blague. Si ça se trouve, pour lui, le lâcher de salope, c'est de moi aussi, ainsi que les discours d'Adolf Hitler, ce monsieur ne retient rien de positif de moi. Mais bon, j'ai quand même fait des recherches, j'ai tapé sur ChatGPT obus plus rectum, il m'a répondu je déconseille, puis il a fouillé en ressources pour savoir qui s'était un jour assis sur un obus, j'ai claqué l'équivalent de 200 mètres cubes d'eau, un Léon Marchand bientôt sera debout dans une piscine vide, ce sera de ma faute, et en fait, il y a plein d'exemples. On peut même dire que ça fait partie de la culture française désormais, comme la blanquette ou la délation. En 2022 déjà à Toulon, un homme de 88 ans s'était présenté à l'hôpital, là aussi, avec un obus de la Première Guerre mondiale coincé dans le rectum. En fait, cette guerre, dans un premier temps, a détruit des villages des environs de Verdun et dans un second temps, des rectums. Et je ne pense même pas qu'on puisse se retourner vers les Allemands pour râler, parce que les Français qui font ça sont volontaires. Je ne juge pas, je suis ouvert. Il y a 2 jours, j'ai même salué un rasta blanc. C'était soit ça, soit ils ne mettaient pas le son dans la salle, parce qu'ils sont tous régisseurs. Mais comme le dit Holdelaf, sur le net, il y a des centaines d'objets pour se faire plaisir. Qu'est-ce que tu vas faire ça avec un obus ? Je veux dire, si c'est le frisson du danger, le fait qu'il peut exploser, dans ce cas, il suffit de s'asseoir dans un fauteuil électrique acheté sur Chine. Normalement, t'appuies sur on, il explose. Et les 4 secondes avant, au moins, auront été placés sous le signe du confort. J'ajoute qu'en Angleterre, il y a 2 ans, un autre homme avait fait ça, avec un obus de la Seconde Guerre, cette fois. Ah. La tendance est donc globale. Peut-être que des Russes, actuellement, s'enfoncent des boulets de canon napoléoniens. Je sais pas, mais je suis en train de me lasser fortement de l'époque dans laquelle on vit. Parce qu'encore une fois, je ne juge pas. Mais à terme, si le phénomène prend de l'ampleur, il suffit que Thibaut InShape en vidéo se colle un obus à l'arrière en disant que ça détend. Nous connaîtrons tous une personne qui en a un dans le rectum. Mais ce sera celle qui, à la visite médicale de la boîte, aura 20 kilos de plus que la fois précédente. Alors, suite de l'histoire à Toulouse, l'hôpital a quand même été obligé d'appeler les démineurs qui n'avaient jamais vu ça. Sur 4, il y en a 3 qui ont démissionné en disant le métier n'est plus le même. Et les forces de l'ordre ont demandé à l'homme en question... Pourquoi il avait fait ça? Oui, parce que c'est absurde. Ça revient à voter LFI si tu fais du business entre Paris et Tel Aviv. Et je vous lis l'article. Le patient a dit s'être introduit l'obus sans savoir de quoi il s'agissait. Et ça, c'est encore plus grave. Parce que, il y a 10 jours, j'ai emmené ma nièce au zoo. Il y avait un ornithorynque. C'est la première fois que j'en voyais un. Je me suis pas approché de l'animal en moonwalk tout en retirant mon slip et en disant à l'ornithorynque, mon coco, ce bec de canard sur un corps de loutre va être mon passeport pour des sensations nouvelles. Je savais pas ce que c'était, donc je l'ai laissé tranquille. C'est pour ça que je suis contre la guerre, parce que ça fait des morts, bien sûr, beaucoup de morts. Mais aussi parce que je pense au système de santé des pays concernés. Si en Ukraine, ils en prennent pour 80 ans d'admission aux urgences d'habitants de Mariupol, avec dans le rectum les obus de Poutine. Certes, on pourra dire que Poutine est entré dans l'histoire. et ailleurs aussi. Mais la question de la dignité se pose. Quel monde allons-nous laisser à nos enfants ? Une planète trop chaude où la Normandie sera sous l'eau et où les derniers obus des plages du débarquement seront dans les touristes ? Je sature. PS, JB avait raison. Le 2 janvier 2023, j'ai fini par trouver, j'avais évoqué l'homme de Toulon de 88 ans et son obus dans le derrière, mais seulement 10 secondes. Hein, jamais j'aurais fait une chronique entière là-dessus, évidemment. Jamais je fais ça.
Ça trop s'en veut pas. Merci. La bande originale d'Isabelle Carré de Bernard Campan continue après Lola Yang et Dealer. C'était Lola Yang, Dealer, le meilleur de la bande originale, c'est jusqu'à 12h30 sur Inter.
Je sais pas si j'aime l'hiver en fait.
Un pas de côté, la pièce signée, la création de cette pièce signée par Anne Giaffréry, ça se passe au Théâtre de la Renaissance. Sur scène, Isabelle Carré, Bernard Campan qui sont nos invités, mais également Stanislas Staniche, Hélène Babu, Kelly Gowry et Pierre-Antoine Suarez.
Question, comment est-ce qu'on fait pour être sexy à la plage ? Je sais qu'on n'est plus à l'heure de la plage, mais j'ai eu envie de ressusciter ces moments de bonheur pour vous tous.
On reste habillé.
Toujours à l'heure de la plage.
On reste habillé. Pardon, t'as envie ?
On est toujours à l'heure de la plage pour nous qui sommes riches.
C'est... Oui. Ouais, alors toi, être habillé, non. Non, non, comment on fait pour être sexy à la plage ?
Ah oui, il faut lire des livres.
Bravo,
ouais.
Bravo.
C'est très sexy,
le livre est devenu un objet de séduction, une arme de séduction massive.
Ça.
Absolument.
Alors que c'est le corps, c'est bien, normalement.
Une bonne nouvelle pour les libraires ?
Exactement. Alors, bonne nouvelle à nuancer. Lire, faire de vous un être sexy en lisant, ça c'est quelque chose qui existe déjà depuis quelques années. Il y a même un compte Instagram, Hot Dudes, allez-y les filles. Des photos d'hommes en train de lire à New York. Bon, très belle photo.
Tu regardais quand même les couvertures un peu aussi ?
Bien sûr, pour m'intéresser à ces goûts littéraires.
Mais comme maillot de bain, New York.
Voilà, voilà. Mais en fait, il semblerait que sur la plage, on feint la lecture pour donner la sensation qu'on est une personne cultivée. C'est donc une posture.
Ah oui.
Donc on va se moquer du choix du livre.
Même dans sa chambre, Daniel fait ça.
Oui, mais le seul.
Même seul. Ça va loin.
On va se moquer du choix du livre. On va se moquer aussi de la valeur littéraire du livre. Finalement, ce qui compte, c'est d'être vu de façon ostentatoire.
Quand tu dis on va se moquer, c'est...
On s'en intéresse pas.
Il n'y a pas d'importance.
Absolument, ouais. Okay. On va se donner à voir de façon ostentatoire en train de lire, alors que ça se trouve, on lit même pas, on feuillette. Mais on connaît déjà ce phénomène, pardon, mais ça s'appelle les livres de table basse.
Oui,
c'est les livres qu'on met en exposition chez soi, en disant quand quelqu'un vient chez moi, il va voir que, oh tiens, j'ai un livre sur, je sais pas...
Les mecs qui ont des livres féministes...
Voilà, sur, oui, ou sur des courants littéraires, ou des courants artistiques.
J'en moi, je mets que des livres avec des photos, comme ça, moi,
il sait pas lire.
Des
œuvres sur la domination.
Éventuellement des œuvres d'art, voilà, tout ça, c'est une façon de donner une
d'envoyer un message.
Voilà, de se faire voir d'une façon ou d'une autre. Alors, sauf que là, il y a un autre phénomène qui arrive avec le livre, c'est qu'on veut l'assortir à sa tenue, parce que le livre est devenu un objet chic. Donc, que font les éditeurs? Les éditeurs ont deux options.
Un livre,
soit
un slip.
Ils cherchent un livre, un slip, c'est une bonne, un bon concept d'émission. Après un livre, un jour, un livre, un slip.
On va en parler. J'adore. Les directions.
Émission d'été.
France Télévisions, c'est pour nous.
Allez.
Les éditeurs, en fait, que font-ils? Ils cherchent en fait, des couvertures qui vont capter l'attention, parce que s'ils veulent se retrouver aussi sur des photos... Parce que être vu en train de lire, c'est sexy, donc on va se faire prendre en photo en train de lire. Donc,
moi, ce qui m'intéresse, c'est le choix des titres.
Alors, ça, c'est encore autre chose. Mais les gens avouent qu'ils achètent des livres pour la couverture de plus en plus, sans connaître le contenu du bouquin.
Génial.
Ça me fait penser à un petit enfant que j'ai vu dans le train, à qui on tendait un livre et qui a scrollé la couverture avec son doigt.
Oh, waouh.
Croyant que c'était un écran tactile.
Absolument. Alors, ma question est la suivante. Qu'est-ce qui vous a rendu véritablement sexy sur la plage cet été ou dans, au cours de vos vacances, des livres que vous avez commencé, que vous avez fini ou abandonné en cours de route, parce que c'est pas parce qu'on a un livre dans les mains qu'on est obligé de le finir.
Alors ça sera pas le livre de la pièce « Notre besoin de consolation est impossible à rassasier » parce que celui-là, il est un peu négatif.
Qu'est-ce que vous avez lu de beau récemment ?
Pif Gadget.
Moi, j'ai lu des livres de John Didion.
Ouais, absolument. Ouais.
Voilà, alors je sais pas si c'est sexy.
Non, mais en tout cas, ça vous a fait du bien, j'imagine.
Absolument.
Ouais.
Pas de lecture, Bernard ?
Non, pas qu'il me revienne.
Pas cet été. On se retrouve juste après Junior et Panique.
Ça me fait froid dans le dos. Je perds mes moyens, j'ai plus de mots. Quand dans ce grand bain, ce bain de foule, je sens soudain. Que je coule, je retiens mon souffle, je me retiens. J'y peux rien, c'est physique. Comme un choc électrique. Je te vois, je panique. Des frissons, je dégouline. Le cœur qui cogne dans ma poitrine. Quand dans ce trou noir de monde, je sens tout à coup que je tombe. Je retiens mon souffle, je me retiens. J'y peux rien, c'est physique. Comme un choc électrique. Je te vois, je panique. Je perds mon sang-froid, je surchauffe. Je reste droite, je deviens gauche. Quand je fais mon chaleur. Je me retiens. J'y peux rien, c'est physique. Comme un choc électrique. Je te vois, je panique. Je panique. Je panique. Je panique. We'll be right back.
C'était Junior avec Panique dans la bande originale sur Inter.
Ben voilà, ça aurait dû être le nom de l'émission. Panique.
Ah, ok. Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Totalement, déjà désolé pour Monsieur Cadour, qui cette année encore va vivre dans un climat amoureux d'incertitude, de menaces, de terreur de perdre son fameux CDD quotidien. Courage. Tiens le coup, Jean-Claude. Désolé pour tous nos auditeurs fumeurs-dragueurs qui, suite aux révélations de ce matin, vont tendre leur mégot mâchouillé à des inconnus dans la rue. Alors non, les gars, non, c'est pas une super idée. Le mélange goudron, salive, Ricard, tapenade, mayonnaise incrustée sur un clopon mouillé, c'est pas un bon départ. Ou alors, si ça marche, ce sera une relation épicée. En tout cas, ça a l'air de fonctionner pour le couple Campan-Carré ou Carré-Campan, comme vous voulez. Désolé, enfin, pour Isabelle. Isabelle Carré, pauvre Isabelle, qui croit être en totale symbiose, connexion, osmose, avec son grand complice Bernard Campan. Eh bien non, il l'a dit. Avec Isabelle, la confiance est de plus en plus là. Ça veut dire qu'elle n'est pas totale, cette confiance. Ah, elle est belle, la grande famille du show business, monde de merde.
Un pas de côté au théâtre, une comédie romantique. Ouais. Signé Anne Jaffery.
C'est un ruban de soleil.
Comédie, on précise, on le rappelle, oui, comédie, avec quand même des moments d'émotion, des moments de rire. Et puis, je pense qu'il y a certains couples qui vont aller prendre un verre après et qui vont parler, j'imagine. C'est bien aussi de parler après un spectacle, d'échanger des
idées.
Ah oui,
j'imagine que ça va bien faire parler, bien faire rapprocher aussi certaines
personnes. Peut-être y avoir des séparations.
Absolument, on joue le 14 février.
Il faut demander. Parle un peu à tous les couples, beaucoup de couples.
Il faut demander où ils font leur pause déjeuner surtout. C'est ça qu'il faut demander.
T'étais où au déj? Avec qui? Un pas de côté, c'est au Théâtre de la Renaissance. Merci mille fois d'être venus dans l'émission tous les deux. Et puis, j'ai remarqué, Bernard, pour une fois, c'est une émission où on ne demande pas, on en est où du film des Inconnus? Le meilleur de la bande originale, c'est fini pour aujourd'hui. Merci Laïla.
Merci Nagui. Et on se retrouve demain, même endroit, même heure, avec un autre duo de demi-sœurs. Cette fois, c'est Constance Gay et Claire Borotra.
Dans mes souvenirs, l'émission était bien, mais je me fais pas confiance.
C'est quand même une belle journée.